conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Je reçois aujourd'hui pour le deuxième volet de cette interview, Catherine Jacquot, architecte, urbaniste. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous vous inscrivez aujourd'hui dans le paysage de l'architecture et de l'urbanisme au niveau national par les fonctions que nous avons évoquées précédemment. Mais je voudrais parler un petit peu de votre agence. Vous avez créé l'agence en 84, l'agence Sancy Jacquot. Et puis, en 2017, vous avez décidé de reformater, de partir sur des bases différentes. Effectivement, beaucoup de projets de 84 à 2017. Vous pouvez nous en résumer quelques-uns ?
Effectivement, en 84, nous avons créé l'agence Sancy Jacquot parce que nous avons gagné un concours d'urbanisme avec la FTRP à l'époque, hein, l'agence foncière de la région parisienne, et à Bonneuil-sur-Marne, voilà, dans le Val-de-Marne. Et c'était, ce concours d'urbanisme a été une expérience tout à fait intéressante qui nous a pris de nombreuses années. Et c'était le moment où on revenait justement à un urbanisme en rupture avec ce qui s'était fait dans les 20 ou 30 années précédentes avec les grands ensembles et un urbanisme de dalle. Et on revenait à une notion d'îlot, de lien urbain, d'organisation avec l'espace public. Et c'est cela que nous avons, c'est grâce à cela que nous avons pu gagner ce concours et ça a été une expérience très riche.
Donc du coup, ça vous a mis le pied à l'étrier, on va dire, sur les projets urbains. Donc c'est bien, c'est rare que les agences d'archi commencent par l'urbanisme. En général, on leur demande des petits projets de déco intérieur, puis d'architecture. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante pour vous et je pense que vous l'avez mis en valorisation pendant toutes ces années. Et puis, de nombreux projets de logement, parce que c'est quand même un peu l'ADN de votre agence.
Oui.
Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de vous associer avec Lisa Boutelja, une jeune architecte, qui aujourd'hui, vous êtes toutes les deux associées. Quel est aujourd'hui l'ADN de l'agence ?
Alors, l'ADN de l'agence... Alors d'abord, je me suis associée avec Lisa Boutelja parce que j'attache une grande importance à la transmission, hein, des savoirs. Je crois que c'est une profession où on a besoin de garder à la fois une expérience accumulée, un savoir constitué, et de ne pas le perdre et de le transmettre. Donc, ça a été très important pour moi de trouver, de pouvoir m'associer avec un nouveau talent, avec aussi une nouvelle vision, et de partager, grâce à cela, une pratique qui est essentiellement axée à la fois sur l'urbanisme et sur peut-être la matière première de la ville qu'est l'habitat, mais aussi sur évidemment d'autres projets, et de le faire avec peut-être comme ADN la conscience, hein, la conscience que nos ressources sont désormais limitées, que nous sommes dans une période de transition climatique tout à fait importante, où le cadre de vie, dans sa globalité, aussi bien les déplacements que l'habitat, que l'espace public, vont devoir se transformer. Et c'est à cette transformation que nous voulons participer.
Alors, pour parler de la domesticité et de l'habitat, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous arrivez à faire passer vos idées sur une nouvelle manière d'habiter auprès des opérateurs, qu'ils soient bailleurs ou promoteurs privés, et que vous avez cette conscience de pouvoir justement transmettre aussi vos idées ?
Alors, nous essayons de le faire. C'est-à-dire que bon, nous avons, je crois, une conviction, un engagement qui est fort sur la nécessaire évolution, hein, de la construction, de la conception même des espaces. Et Cette conviction, nous essayons de la partager à la fois avec les élus, car la relation entre architectes et élus est extrêmement importante, et avec nos maîtres d'ouvrage, bien sûr, hein, privés et publics. C'est de cette parfois confrontation dont le projet est issu, où j'espère à chaque fois nous arrivons à faire passer au moins une partie de ce qui nous semble important. Il y a une écoute quand même réellement, à la fois dans le public, chez les élus, chez les maîtres d'ouvrage. Il y a une écoute. Après,
si je puis me permettre, il y a aussi une écoute des habitants, puisque aujourd'hui, plus qu'il y a encore 4-5 ans, il y a la participation des habitants, il y a l'implication. Je veux bien que vous nous exposiez un petit peu ce que vous avez vécu récemment, je pense, sur un projet à Bagneux, où il y a eu un nombre de discussions, de partages, de présentations. Je veux bien que vous preniez cet exemple-là, parce qu'il me paraît assez significatif, justement, du participatif.
Alors, il l'est absolument. Et je crois beaucoup à la notion d'acceptabilité de l'architecture, en matière d'habitat, en tout cas, en matière de résidentiel, de logement. Il est très important que ce que nous construisons, ce que nous concevons, soit au niveau des usages, au niveau des fonctions et même à un niveau formel, esthétique, inséré dans un contexte, dans un environnement à la fois social et urbain bien accepté par les habitants. Et à Bagneux, j'avais déjà eu l'occasion, dans le cadre d'une mission de coordination entre plusieurs promoteurs sur le quartier de la Fontaine-Gueffier, de mettre en œuvre cette concertation organisée par les élus, bien entendu, mais qui organise cette concertation avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire y compris les promoteurs privés, les architectes, les maîtres d'œuvre. Et les élus organisent une concertation tout à fait intéressante, à la fois des habitants qui vont...
Des quartiers environnants du projet,
c'est ça ? Des quartiers environnants, mais de toute la ville. C'est-à-dire que même les habitants du centre-ville sont concertés pour la construction d'un bâtiment qui est dans un autre quartier. Donc, ils arrivent à constituer des jurys citoyens. Une fois que l'ensemble des habitants sont venus regarder dans différents lieux les projets, les esquisses des projets, et ils demandent par une action volontaire aux citoyens s'ils veulent bien faire partie d'un jury. Le CAUE des Hauts-de-Seine participe à la formation de ces citoyens, leur donne quelques petit apprentissage, mais néanmoins nécessaire. Et ces jurys, donc, sont tripartites. Il y a les élus et les promoteurs qui sont présents dans le jury, mais il y a aussi les citoyens, il y a aussi des professionnels, des techniciens. Et c'est comme cela que sont choisis les futurs projets. Et à Bagneux, nous avons donc...
Vous avez gagné une très jolie consultation.
Voilà, dans le quartier des Mathurins, qui est un...
La colline des Mathurins.
La colline
et ce
des
beau
Mathurins.
Quartier.
Exactement, un quartier extrêmement important pour la ville de Bagneux, qui fera le lien entre les quartiers sud et le centre-ville, avec une grande mixité de fonctions et évidemment la construction de logements dont la région parisienne a tant besoin.
Et alors, est-ce que vous avez eu l'impression, juste pour reprendre un petit peu vos propos, est-ce que vous avez l'impression que ce jury citoyen a fait passer certaines idées que vous avez mises en pratique dans votre projet ? Est-ce qu'il y a eu vraiment une ou deux notions ? Vous pouvez nous donner une ou deux notions ?
Oui, tout à fait. Donc, notre projet, justement, était particulièrement axé. Ce qui l'animait, c'était justement des exigences à la fois environnementales, mais aussi dans le traitement de l'eau, dans l'emploi de matériaux, dans le réemploi aussi de matériaux, dans le traitement avec la proximité d'un espace naturel sensible qui était en bas du le long du talus où s'implantait le le bâtiment. Toutes ces, évidemment, la performance énergétique également des bâtiments. Donc, ces notions-là, nous les avons défendues devant le jury. Et notamment tout un système de plantation sur les terrasses hein, des successives des logements, un échelonnement des hauteurs et avec un traitement de l'eau, des eaux de pluie qui permettent un arrosage naturel et sans excès et de l'ensemble des plantations du site. Et tout cela, je crois, a séduit ce jury et a permis que nous gagnions le concours.
Alors, j'espère que vous aurez l'occasion de faire, une fois que ce bâtiment sera construit, de pouvoir interviewer quelque part les habitants et de faire un retour d'expérience, puisque ce qui importe aussi dans ce métier et dans cet exemple que vous donnez, c'est qu'effectivement, il y a un recul et qu'on comprenne ce qui s'est passé, la démarche et si vraiment ça a fonctionné. Alors, pas seulement de belles idées.
Bien entendu. Alors, c'est une démarche, mais c'est aussi des savoir-faire techniques. Hein. C'est de l'expérimentation. On travaille avec un paysagiste qui s'appelle la Compagnie du Paysage, qui est conjointement avec le maître d'ouvrage, hein, BNP Paribas, que nous mettons en place les dispositifs qui permettent d'être à la fois performants sur le plan environnemental, sur le plan énergétique, sur le plan aussi de la limitation de l'émission des gaz à effet de serre. Donc tout cela, ces dispositifs, nous cherchons évidemment à les mettre en place et à les faire, à les rendre tout à fait efficaces. Et nous en aurons, j'espère, une démonstration que nous pourrons partager après avec l'ensemble des habitants de la ville.
Alors, très joli exemple et exemple extrêmement intéressant sur tout ce qui est évolution de projet participatif et la manière dont on peut co-construire, puisqu'il s'agit là aussi de faire participer un maximum d'intervenants et d'usagers. De ces logements. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que certains éléments de nos métiers des actions qui sont faites par les maîtres d'ouvrage, mais aussi les industries, la préfabrication, sont des actes d'une nouvelle façon de construire qui peuvent aujourd'hui s'inscrire dans la modernité ?
Bien sûr, donc de toute façon, de nouvelles façons de construire, il va vraiment falloir les trouver. La diversification peut-être des matériaux, les matériaux biosourcés, le bois, vont impliquer de nouvelles techniques de construction. Il est bien certain que le bois, par exemple, induit la préfabrication, hein, forcément, puisqu'il faut... ça permettra, j'espère, hein, d'inventer de nouvelles façons d'intervenir sur les sites et de
peut-être
développer...
d'une manière plus légère
Alors, d'une manière plus légère, peut-être plus rapide. Il y a aussi un outil qui est en train de se développer et qui modifie considérablement nos pratiques, qui est le BIM, ce qu'on appelle le BIM, c'est-à-dire en fait le travail
en volumétrie
en trois dimensions. Et ces maquettes 3D sont tout à fait importantes et on peut dire que peut-être certaines applications seront aussi à faire sur le chantier lui-même et plus seulement dans la conception.
Avoir des ateliers de préfabrication à la porte des chantiers.
Exactement.
Parce que c'est aussi une manière de réduire les coûts et les temps.
Exactement, sur certaines pièces. Il est difficile d'imaginer encore ce que sera le développement de cet outil qui promet quand même d'être assez important et faire évoluer les métiers de la construction de façon tout à fait importante.
Formidable. Je pense qu'on pourrait continuer encore un certain nombre d'heures. On a prévu de toute façon avec un certain nombre d'acteurs d'avoir une table ronde sur la préfabrication et je me permettrai de vous demander de venir nous éclairer.
Bon, avec plaisir.
Merci chers auditeurs et à bientôt sur Radio Immo évidemment.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
radio-immo.fr
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.